Nous sommes de retour à l'émission Sans détour pour la revue de presse. On commence avec quatre conseils pour être allié des personnes en situation de handicap. Dans le temps des fêtes, hein, on sait, on peut avoir des soupers de famille, des rencontres, on peut avoir des soupers aussi avec les employés. Donc, quatre conseils pour être un bon allié des personnes en situation de handicap. Ça marque aussi donc avec la Journée internationale des personnes handicapées qui y était le 3 décembre dernier, donc il y a quelques jours. Conseil numéro 1, demander avant d'agir. Il est essentiel, évidemment, d'avoir le consentement d'une personne avant de la toucher. Souvent, pour bien faire, on va prendre la main de quelqu'un ou on va l'attirer pour essayer de l'aider. Et c'est évidemment là, pour aider qu'on fait ça, mais sans le consentement des gens, ça peut évidemment emmener à des situations cocasses ou à un inconfort de la personne. Et donc, aussi, de faire les choses à sa place, des fois, ça peut être accommodant pour la personne. De toujours avoir des gens qui font les choses à sa place sans lui demander si elle a besoin d'aide. Encore une fois, c'est fait avec plein de bienveillance, mais ça peut être mal perçu par la personne et lui causer un inconfort. Donc, il faut toujours demander avant d'agir. Le numéro 2, la curiosité est bien et l'assistance est mal. Donc, il faut évidemment se montrer curieux et ouvert à notre entourage, aux personnes qu'on ne connaît pas. Par contre, il faut faire attention pour ne pas être insistant, pour ne pas être indiscret. Hein? Demander aux gens quels sont, par exemple, leur handicap ou quels sont leurs diagnostics quand on ne les connaît pas, ça peut être encore une fois malaisant et les personnes n'ont peut-être pas envie de nous faire un cours 101 sur leur situation d'handicap ou sur leur situation personnelle. Donc, il faut vraiment trouver juste le milieu entre la curiosité et l'assistance, c'est particulièrement, j'ai envie de dire, avec les personnes qu'on ne connaît pas hein, dans les endroits publics. Ils sont peut-être pas dans une situation ou dans un matin où ils ont envie de parier de ça, où ils ont le temps à parier aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Conseil numéro 3, éviter les compliments déplacés. Toutes les personnes en situation de handicap ont déjà entendu le fameux « t'es belle pourtant pour une personne en situation de handicap » ou « t'es beau pourtant pour une personne en situation de handicap » ou « t'es tellement courageux, courageuse ». Encore une fois, ça vient d'un bon fond, mais ça peut créer un malaise. Les personnes en situation de handicap vont à l'épicerie comme tout le monde. C'est pas un acte de courage, c'est parce qu'on doit manger. Donc, il faut y penser avant de lâcher des compliments à tout vent et donner un compliment là, qui vient du cœur, mais sans nécessairement le relier avec la situation de handicap. On peut dire à la personne qui est beau, qu'elle est belle, sans dire qu'elle est en situation de handicap, par exemple. Donc, on peut complimenter, mais sans souligner l'incapacité de la personne. C'est toujours plus gagnant. Et finalement, conseil numéro 4, élargir sa vision du monde. Être capable de poser des questions lorsque, comme je le disais tout à l'heure, lorsque c'est nécessaire de le faire, lorsqu'on est dans un endroit bienveillant où on peut se permettre de poser des questions à une personne qu'on connaît, par exemple, ou avec qui on a un bon contact. Il faut aussi reconnaître ses propres préjugés et voir à y travailler. Tout le monde a des préjugés, mais encore faut-il être capable de passer outre et de s'informer pour passer outre ces préjugés-là. Être un bon allié, c'est aussi d'informer sur les réalités des personnes en situation de handicap, consulter leur travail, consulter les militants, consulter les rapports dont on a parlé tout au long de l'émission, faire des lectures par rapport à l'handicap, aux enjeux des personnes en situation de handicap, quels qu'ils soient. Donc, c'est ce qui est le plus gagnant là, pour être curieux et élargir la vision, notre vision du monde. Donc, quatre conseils pour étayer des personnes en situation de handicap. On poursuit maintenant avec une autre nouvelle qui nous vient de la SQDI, donc la Société québécoise de déficience intellectuelle, qui s'adresse donc au tribunal pour faire reconnaître l'exploitation des personnes en situation de handicap sur les plateaux de travail. Et là, ici, là, c'est vraiment un enjeu qui est très complexe. Donc, je vous donne la nouvelle, là, il y a eu vraiment un recours collectif qui a été déposé en cours pour mieux encadrer les plateaux de travail pour les personnes ayant des situations d'handicap, parce que dans bien des plateaux de travail, les personnes ne sont pas payées au salaire minimum. On peut bénéfices sociaux par rapport aux autres employés parce qu'ils sont en situation d'handicap. Et c'est ce que la SQDI donc, dénonce, c'est le fait donc, de maintenir ces personnes-là dans des programmes pour les personnes en situation d'handicap qui devraient mener à un emploi permanent régulier, mais qui trop souvent ne mènent pas à un emploi permanent régulier. Et donc, on maintient ces personnes-là dans des situations de précarité financière, dans des situations de précarité sociale aussi, parce qu'elles n'ont pas le droit à tous les avantages sociaux des autres personnes. Et encore une fois, là, c'est, je le disais tout à l'heure, un dossier très complexe, c'est à double tranchant. Hein. Il y a des personnes qui sont sorties dans les médias pour dire oui, mais dans certains cas, là, si on interdit les plateaux de travail, il y a des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas faire autre chose, qui donc vont perdre leur emploi, même si l'emploi n'est pas rémunéré ou très faiblement rémunéré pour une personne en situation de handicap grave, entendons-nous, c'est mieux que rien. D'autres vont dire que, au contraire, ben c'est d'exploiter ces gens-là. Donc, il y a vraiment deux côtés à la médaille et je pense que c'est ça. Il faut trouver un juste milieu. Il faut aussi se parler. Il faut mettre en place des réglementations qui vont favoriser donc le maintien à l'emploi des personnes en situation de handicap et adhésion à un emploi régulier à plus long terme. Peut-être qu'on oublie ça. Et il y a aussi, il faut le dire, différents types d'handicap. Il y a des gens qui sont, on le disait donc avec M. Rago, des gens qui sont tout à fait capables d'exercer un emploi régulier, mais qui, à cause de préjugés, n'y ont pas accès. Il y a aussi une petite tranche de la population qui n'est pas en mesure d'être dans un emploi régulier. Et donc, il faut penser pour les deux côtés. Il faut penser pour ces personnes-là. Il faut mettre en place des réglementations qui tiennent compte des différentes réalités de ces personnes-là. Parce que, évidemment, la situation de handicap, ben, ça peut être très large. Mais quand même, il faudra suivre le recours collectif qui a été approuvé et qui est mené par la SQDI et voir où ça amènera en espérant que ça ouvre les discussions. Finalement, on parle de consommation d'alcool et de cannabis chez les gênés. C'est un enjeu. C'est un enjeu dont on parle très peu, entre autres parce que on a des préjugés où on maintient encore des stéréotypes là, sur les personnes âgées. Et donc, les personnes âgées ne vont pas parler nécessairement de leurs problèmes de consommation, ne vont pas nécessairement connaître non plus les problématiques auxquelles cela peut mener, et on n'en parle pas assez, peut-être par pudeur sociale, peut-être, je disais, là, par préjugé. Et donc, il y a un problème de consommation d'alcool. Là. C'est un constat de consommation d'alcool et de cannabis. Là. C'est un constat de l'Association pour la santé publique du Québec. Il y a ASEPQ qui dit qu'effectivement les personnes en situation les personnes âgées consomment trop de ces substances-là. On ça vient aussi évidemment avec l'isolement, avec les problèmes de santé mentale, avec les problèmes de santé physique. Donc c'est tout le filet social qui a un problème, qui est incapable donc d'aider ces gens-là, et ces gens-là se tournent vers de l'automédication ou des substances pour ne pas ressentir leur malaise. Donc c'est vraiment une conversation qu'on doit avoir et malheureusement on ne s'y penche pas assez au Québec. Il y a encore peu d'études qui parlent de ces problématiques-là, qui trouvent des solutions qui sont adaptées aux personnes âgées et qui sont adaptées à leurs enjeux et aussi qui sont adaptées à leur vision du monde, parce que certaines personnes âgées donc ont encore une vision du monde où par exemple, la violence est acceptable, où ils connaissent très peu la violence financière, connaissent très peu le recours, sont souvent, connaissent très peu les services qu'on offre à eux. Donc, c'est vraiment un ensemble qui semble manquant là, dans notre société, qui fait en sorte que ces personnes-là vont être portées à consommer davantage que d'autres tranches de la population, avec évidemment les risques que cela peut comporter. Donc, ce que nous dit, en fait, l'Association pour la santé publique du Québec, c'est qu'il faut porter attention à nos personnes aînées, il faut ouvrir les discussions, il faut parler de cette consommation-là, et il faut aussi, évidemment, prévenir, mettre un filet social qui est plus solide autour des personnes âgées pour éviter les problèmes de santé mentale, les problèmes d'isolement social, les problèmes, évidemment, de santé physique qui peuvent mener, entre autres, à la consommation. Donc, c'était tout pour cette semaine pour la revue de presse. On se retrouve la semaine prochaine à l'émission Sans détour. Bonne semaine.